Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
Alors, nous en sommes dans l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean, c'est la suite. Et là, nous avons avancé jusqu'au chapitre 3. Et je vous rappelle que l'Apocalypse, ça veut dire révélation, donc. C'est-à-dire l'action de dévoiler quelque chose qui est caché. Dieu dévoile à ses serviteurs un certain nombre de choses. C'est ça une révélation. Et là, l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, nous le savons, il était prisonnier à cause de l'évangile de Christ. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va lui révéler sur l'île de Patmos des choses absolument extraordinaires. Donc nous avions vu le chapitre 1, je ne vais pas revenir là-dessus, où Jean se présente, les choses qu'il a reçues, qu'il va écrire, qu'il a eu ordre d'écrire. Ça va être l'accomplissement, la fin des Écritures. Il
n'y
a rien à ajouter, rien à enlever. Dieu a voulu donner une certaine révélation à son peuple. Cette révélation est complète. Il
n'y
a personne qui peut ajouter quoi que ce soit. Ou personne qui peut enlever quoi que ce soit. Et là aussi, il faut faire attention. Les autres, toutes ces personnes-là sont des imposteurs qui essayent d'enlever ou d'ajouter. Et puis, nous avons vu comment Jean a reçu sa vision, comment il a été en esprit. Je vous ai expliqué ce que c'était les trois types de vision. Et le Seigneur va aussi se révéler à Jean d'une façon très particulière en tant que Christ glorifié. Jean connaissait Jésus ressuscité, mais là d'une façon incroyable,
et
bien Jésus va se révéler à lui en étant glorifié. Et ça, c'était absolument incroyable. Et Jean tombe sous la puissance de Dieu. Il est saisi d'une façon incroyable. Et Jésus va lui révéler des choses dans le monde spirituel absolument fabuleuses. Et là, ce que je veux dans cette étude, cette très longue étude, c'est vous donner beaucoup de lumière sur la révélation et sur le monde invisible. Parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants du royaume de Dieu et des choses invisibles. Ce qui fait qu'ils vivent leur vie sans vraiment réaliser la dimension de l'éternité. Et cela est vraiment dommage. Parce que ce qui sera toujours un moteur dans votre vie, même si vous passez par les choses les plus difficiles, ce qui sera un moteur extraordinaire, eh bien ce sera toujours d'avoir une révélation de l'éternité. La dimension d'éternité. Comprendre que la finalité n'est pas ici. Et qu'on va vivre éternellement avec
lui.
Les choses les plus extraordinaires. Et ça inspire beaucoup votre foi. Moi, ça m'a énormément inspiré dans les moments les plus difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est peut-être les choses qui m'ont le plus inspiré, d'avoir la dimension de l'éternité. Parce que quand tu as des moments difficiles, tu as besoin de voir comme Dieu voit. Quand tu es là à te morfondre, à te plaindre sur tes circonstances, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Parce qu'il n'y a aucune foi qui peut émerger de ton cœur. Parce que tu vois les souffrances des temps présents, les frustrations du moment, et tu n'arrives pas à voir la dimension éternelle de Dieu. Et quand tu commences à recevoir ces révélations au travers de la parole, alors tu changes complètement. La perspective que tu as de la vie change complètement. Et c'est là où tu peux vraiment être enflammé par Dieu et pour Dieu. Et faire les expériences les plus puissantes. Donc Jésus va donner un message après s'être révélé à Jean d'une façon incroyable. Il donne un message aux sept églises et nous l'avons bien sûr au chapitre 2 et chapitre 3. Nous avons vu l'église d'Éphèse à qui il adresse ce premier message. Et je vous rappelle que les sept églises étaient situées à l'ouest de la Turquie, dont vous avez la carte ici, ce qu'on appelle la province d'Asie mineure. Et dans cette province d'Asie mineure, eh bien, vous aviez ces sept villes, et donc il y avait une église dans chaque ville. À qui Jésus s'adresse. Et nous avons vu l'église d'Éphèse, dont nous avons l'historique dans Acte 19, je vous le rappelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit environ une quarantaine d'années après la naissance de cette église, le message que Jésus donne. Église bien enseignée, tu portes des fruits, mais tu te replies trop sur toi-même. Tu vis dans ta bénédiction et tu ne cherches plus à t'étendre, à donner l'évangile à l'extérieur. Par contre, on voit très bien que c'est une église qui avait beaucoup de discernement, qui était très bien fondée et qui savait donc discerner les faux ministères. Et on voit que Jésus loue cette église mais aussi lui fait des reproches. C'est son zèle, son manque de revenir au premier amour, de la fraîcheur du premier amour. Ensuite, nous avons vu Smyrne. Et Smyrne, là, nous avons vu que c'est une église qui ne vit pas à la lumière de son héritage en Christ.
En fait,
c'est une église qui se fait dominer par les païens. Les gens aiment le Seigneur, mais ils sont fatalistes, c'est-à-dire qu'en fait ils subissent les circonstances plutôt que de dominer les circonstances. C'est une église qui a un bon cœur mais qui ne manifeste pas la victoire de
Christ.
Donc Jésus, la seule chose qu'elle peut lui dire, ben, chère église, il va falloir que tu attendes, tu vas être délivré de tes tribulations. Parce que tu as un problème, tu n'arrives pas à vivre dans les richesses que j'ai acquises à la croix pour toi. Et je vous rappelle que chaque église a des messages pour nos églises, à nous, actuellement dans le monde où nous vivons. Ça veut dire que chaque message que Jésus adresse, il y a quelque chose qui peut nous concerner. De telle façon qu'on puisse se regarder comme dans un miroir. La parole de Dieu est un miroir, je vous le rappelle. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder comment Jésus voyait ces églises-là et donner les points forts, donner les points faibles et aussi donner toujours des recommandations. Ensuite, Jésus parle à Pergame. Et là, il y avait vraiment un mélange, un manque de discernement, le mélange du surnaturel divin et satanique. Et comme nous l'avions vu dans l'église plus haut, la deuxième église qui est Smyrne, on parle de ces
Nicolaïtes.
Pardon, la première église, excusez-moi, l'église d'Éphèse. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait des choses dans cette église de Pergame où il y avait un mélange. Vous savez, parfois, on peut être ouvert aux manifestations, mais manquer de discernement. Et il est très important de savoir la source quand il y a des manifestations surnaturelles. Et malheureusement, Pergame n'avait pas compris. Et il y avait du compromis, il y avait des gens qui abusaient les dons de Dieu. Et Dieu veut donner les secrets, la fameuse manne cachée dont il est parlé.
À
celui qui se tient dans la vérité et qui refuse le compromis spirituel. Numéro 4, c'était Thyatira. Et on a vu que Thyatira, eh bien, c'est celle qui a vraiment laissé la sorcellerie envahir l'église. Et c'était vraiment terrible. Ils avaient une fausse prophétesse qui était là et qui faisait quoi? Eh bien, cette fausse prophétesse faisait des signes, racontait des choses. Et elle s'attaquait aux serviteurs de Dieu qui ne voyaient rien, qui étaient séduits. Et qui ne faisait attention à rien, parce que certainement qu'il y avait des histoires d'argent et toutes sortes de choses. Et Jésus lui reprochait, tu vois cette fausse prophétesse, mais tu la laisses dans mon église. Et ça, c'est quelque chose que Jésus reproche à tous ceux qui sont responsables d'église, quand il y a des choses indignes du Seigneur que les responsables savent, ou des gens qui veulent s'introduire et faire du mal au troupeau, le serviteur, le berger a une responsabilité. Par contre, si lui-même est complice de ces choses-là, alors là, il peut être sous le jugement divin. Je vous rappelle qu'en tant que serviteur de Dieu, nous avons une grande responsabilité. Et là, le reproche qui était fait, c'est qu'il laissait faire cette fausse prophétesse, entre guillemets, exercer un ministère, c'est-à-dire enseigner des choses qui étaient fausses, parce qu'ils étaient séduits par cette femme. Et dans le sens certainement d'argent, peut-être d'autres séductions. Et en fait, ils ont laissé la vérité être pervertie. Mais rappelez-vous toujours, dans chaque église, il y a toujours, même quand l'église va mal, Jésus donne un message pour se repentir. Je vous rappelle que toute révélation qui est donnée, qui dit voici ce que dit le Seigneur, c'est terminé et irrévocable, ce n'est jamais biblique. Même le peuple d'Israël, quand il avait péché contre Dieu avec l'idolâtrie, Dieu leur avait dit à maintes reprises de se repentir. C'est vraiment parce qu'ils ont été jusqu'au bout de la patience de Dieu que Dieu a envoyé ses jugements contre Israël, et que Nabucodonosor est venu envahir Israël.
Mais
Dieu laisse toujours une porte ouverte à la repentance. Et ça, c'est important à savoir. N'acceptez jamais des soi-disant prophéties où il y a de la condamnation, point. Je vais venir juger cette nation, je vais tout détruire, je vais, vous voyez, parce que mes serviteurs sont tous pervertis. Toutes les églises ne marchent pas dans mes voies.
Oui,
choses comme ça. Ça, ce n'est pas des révélations. C'est des sortes de manipulations qui ne sont pas bibliques. Dieu nous donne toujours une porte pour la repentance. C'est toujours ce que Dieu fait. Alors, nous en étions à la fin de l'église de Sardes. Et je vous rappelle que Sardes, elle était quasiment morte. Et Sardes, en fait, c'était l'église où il y avait du monde, certainement, mais les vrais chrétiens étaient rares. Et on va relire rapidement, donc, à partir du verset 1 du chapitre 3, il est dit, écrit à l'église, à l'ange, pardon, de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, c'est-à-dire accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. On a vu que ça, c'était revenir au message originel. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Là, je vous rappelle que Jésus revient et ce que nous voyons avec nos yeux au niveau de l'Église, en général dans le monde, et quand Jésus reviendra enlevé, seulement les vrais croyants nés de nouveau partiront. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, les faux là, vous resterez. Les vrais, hop, je les emmènerai avec moi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Verset 5, tu peux lire, s'il te plaît.
Murongo wa gatanu ngunesha azokwambikwa atyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe.
Alors, en fait, je vous ai expliqué un certain nombre de choses à propos du livre de vie la dernière fois. Et je vous ai clairement montré d'abord que quelqu'un qui est effacé du livre de vie, c'est quelqu'un qui perd son salut. Et nous allons en parler un peu ce soir. Mais je vous rappelle que le livre de vie, un certain nombre de personnages bibliques en ont reçu la révélation. Et nous avons remarqué que Moïse est le premier à en parler. David en a eu aussi la révélation dans le psaume 69, je vous le rappelle. Daniel en a reçu la révélation aussi. Dans le Nouveau Testament, nous avons Paul qui en a reçu la révélation dans Philippiens. Et puis aussi, bien sûr, Jean. Et on s'est aperçu que ce livre de vie, c'était donc un livre dans le ciel où normalement tous les noms de tous les hommes est inscrits. Pourquoi? Parce qu'il est dit clairement dans la Bible que celui qui n'est pas inscrit dans le livre de vie n'ira pas dans l'éternité. Et à partir du moment où quelqu'un est inscrit dans le livre de vie, il est destiné à l'éternité. La Bible ne nous parle pas d'inscrire des noms régulièrement dans le livre de vie. Votre nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie le jour où vous êtes né de nouveau. Votre nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie le jour où vous êtes né de nouveau. Jamais je voyais un seul verset qui vous dira que nous avons été inscrits le jour où nous sommes nés de nouveau. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible parle clairement d'effacer des noms du livre de vie. Les explications que nous pouvons donner à propos de cela sont les suivantes. Parce que s'il y a des noms qui sont prédestinés dans le livre de vie, qui sont donc prédestinés, c'est-à-dire écrits d'avance, ça veut dire que la doctrine de la prédestination est vraie. Où on enseigne, ni plus ni moins, qu'il y a des gens qui sont destinés pour le salut et d'autres non. Et ça, ce n'est pas biblique. On ne peut pas soutenir une théologie où où Dieu choisit d'avance des gens.
Et
il dit, toi, tu es destiné à la vie éternelle. Et toi, ben, tant pis pour toi. J'ai pas voulu t'inscrire avant. Tu m'intéressais pas. Non, ça voudrait dire sinon que Dieu est injuste. Et aussi, ça voudrait dire que Jésus n'est pas mort pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui sont prédestinés au salut. Ça voudrait dire aussi que Timothée, quand Paul dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Mais
ça voudrait dire ni plus ni moins que Paul se serait trompé. Il aurait dit, Dieu veut que tous les hommes prédestinés au salut soient
sauvés.
La Bible nous parle d'être prédestinés au salut avant la fondation du monde. Chaque créature, être humain, a une chance d'être sauvé.
Si
il cherche Dieu. Par contre, au moment où les gens meurent physiquement, c'est là où, personnellement, je ne peux pas interpréter autrement,
où
apparemment, Jésus efface des noms du livre de vie. Ça veut dire que, de toute façon, ces gens-là ne peuvent plus être sauvés parce qu'ils sont morts physiquement. Sinon, je ne vois pas d'autre explication. Sinon, ça veut dire que Dieu a prédestiné des gens et que ces gens qu'il a prédestinés,
ben,
ils ont la chance d'être les petits préférés de Dieu. Et ça, je refuserais toute ma vie d'enseigner ce genre de choses. Calvin l'a enseigné, le réformateur Calvin, qui était de la même époque que Luther. Et les églises calvinistes ont enseigné ça. Ils ont enseigné qu'il y avait des gens qui étaient prédestinés au salut et d'autres non. Et il y a beaucoup de gens qui ont renié Jésus, donc qui n'ont jamais accepté Jésus. Parce qu'ils ont dit, moi je ne suis pas prédestiné. J'arrive pas à croire comme toi. Et je ne peux pas accepter une telle théologie. Parce que je sais que c'est quelque chose qui a couru et qui court parfois dans les églises.
Où
des gens pensent que vraiment, il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés et d'autres non. Jésus dit clairement, celui qui vaincra, c'est-à-dire qui marchera dans ses convictions, sa foi jusqu'au bout, sans renier Jésus, alors il sera revêtu d'un vêtement de blanc. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'il y a des noms qui sont effacés. Alors maintenant, nous allons parler. Et je vous rappelle que renier veut dire rejeter délibérément. Et je vous rappelle qu'il faut vraiment, vraiment faire une différence entre deux choses. C'est entre le fait de perdre sa récompense et dans certains cas très rares, perdre son salut. D'abord, nous allons voir et revoir quelques textes. C'est Matthieu 10, versets 32 et 33.
Matthieu 10, 32
et 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 33. Mais quiconque me reniera, me rejettera délibérément, comme c'est marqué entre parenthèses, devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, il y a deux aspects du reniement. Le reniement, ça peut être l'inconverti qui continue jusqu'au bout à dire ces histoires de Jésus, ces histoires de Dieu, ça ne m'intéresse pas et il meurt comme ça parce qu'il n'est pas sauvé.
C'est
des gens qu'on a vus qui meurent sans avoir jamais cru en Jésus et accepter Jésus comme sauveur personnel. Ces gens-là, puisqu'ils ont renié Jésus et qu'ils sont morts, c'est clair que Jésus les a reniés aussi devant son Père et les renieront au jour du grand jugement de Dieu, du trône blanc, quand les gens passeront devant au jour du jugement. Et nous verrons comment ça va se passer. Entre autres, l'Apocalypse nous l'explique très bien. Où ce sont les inconvertis qui sortiront de l'enfer, qui ressusciteront pour la deuxième résurrection, et ils passeront devant le trône blanc du jugement de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le jour du jugement.
Et
là, Jésus les reniera. Vous m'avez renié, je vous renie. C'est là aussi où il y aura cette deuxième phase du reniement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et que tous les chrétiens ont quelque part, c'est
de
se dire, oui, mais moi je connais vraiment des chrétiens qui renient Jésus, ont renié Jésus maintenant. Alors, là, on va quand même voir différents cas. Je vous ai dit qu'il y a un rétrograde. Très souvent, n'a pas renié Jésus. Donc il n'a pas perdu son salut. Par contre, il est en train de perdre sa récompense. Un rétrograde étant quelqu'un qui est vraiment né de nouveau. Faites attention, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il va prier dans une église, il y a beaucoup de sympathisants pour de l'évangile.
Ce n'est
pas parce que quelqu'un se dit chrétien qu'il est vraiment chrétien né de nouveau, je vous le rappelle. Donc là, on parle vraiment de personnes qui vont naître de nouveau. Y a-t-il une possibilité de dire que quelqu'un va perdre son salut? Alors, la Bible est très, très limitée par rapport à cette doctrine.
C'est-à-dire,
elle nous montre quelques passages,
mais
qui sont très rares. Vous savez, quand il est dit, ni les adultères, ni les ceci, ni les magiciens, etc., les sorciers n'hériteront du royaume de Dieu. Les menteurs, etc. On s'adresse vraiment dans le contexte de ce genre de verset aux inconvertis, des gens qui ne sont pas sauvés. Donc là encore, quand vous voyez de tels versets, regardez dans quel contexte, c'est-à-dire de qui veut-on parler.
Parce que,
vous savez, tristement, les chrétiens sont très forts pour lire un verset et ne pas chercher ce qu'on veut dire autour. Ce qui fait que parfois ils prennent des versets et ça leur fait peur parce qu'ils disent mais c'est dans la Bible donc c'est pour moi. Et d'un seul coup ils commencent à paniquer. Ou alors il y a ceux qui aiment tellement faire des prédications de condamnation et de mettre des chrétiens sur des joues. Le salut est gratuit. La récompense est payante, on doit la gagner. Avec les œuvres que nous allons porter. Maintenant, la Bible nous donne, dans Hébreux chapitre 6, quelques conditions où des gens vraiment là vont perdre leur salut. Nous allons lire au chapitre 6. Nous allons lire donc à partir du verset 4 jusque donc au verset 6 et là vraiment la Bible fait plus qu'un sous-entendu. Vous savez parfois la Bible déclare quelque chose mais on sent que il sait pas et il y a des fois la Bible est très tranchante, paf, fait une déclaration comme ça.
kije nyene cumvikana neza.
Des fois la Bible fait une déclaration et vous avez beaucoup de conditions à remplir.
Nahandusanga Bibiliya hari kivuga ugasanga hari byinshi bivugwa bisabwa.
Et des fois la Bible sous-entend selon les interprétations qu'on donne que c'est plutôt quelque chose ou autre chose.
Nikindi gihe usanga Bibiliya ivuze ikintu umugabo kumva ko hari kindi yashatse kuvuga.
Donc nous allons lire au verset 4, il est dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. »
Ngo kuko bamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru bagasangira mpuhe mu yera bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe kizoza maze bakagwa bakabivamwo nibishoboka gusubira kubahindura abasha ngo bihane kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamutetereza ahibonekeza.
Rappelez-vous que lorsque vous naissez de nouveau, vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, il va se passer quelque chose, un miracle en vous. Il s'est passé quelque chose. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et la Bible dit clairement que c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, dans notre esprit. Et Jésus a promis dans l'évangile de Jean que le Saint-Esprit habiterait en nous pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité du salut. Le salut n'est pas quelque chose que tu vas perdre à tous les coins de rue ou à chaque péché que tu peux faire. Sinon, le Saint-Esprit sortirait de toi. Et le dimanche d'après, tu irais à l'église et tu dirais « Oh Seigneur, je te demande pardon » et le Saint-Esprit rentrerait en toi, à nouveau. Et puis, je ne sais pas, un mois après, deux mois après, tu vas encore pécher. Et d'un coup, le Saint-Esprit ressortirait de toi. Non, la Bible est claire. Elle nous parle de naître de nouveau, de naître une deuxième fois. Mais il n'est pas dit de naître une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une dixième, une xième fois. Donc il faut bien être clair là-dessus. Et il y a des gens qui ne sont pas des témoignages pour Christ et qui sont pourtant nés de nouveau. Et ces gens-là ne perdent pas leur salut. Par contre, ils ont rétrogradé. Mais là, ici, dans ce texte, c'est quand même plus implicite.
Ariko ngaha hari ibintu bavugwamwo bikomeye bisa n'ibitomoye.
On voit vraiment que là, dans ce texte, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle d'une impossibilité. Et on va sauter au verset 6, s'il vous plaît, directement, merci. Donc, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance.
Ngo bamaze kugwa bakabivamwo ngo ntibishoboka gusubira ko
renouveler et amener à la repentance. Donc vous voyez, il y a ce mot impossible ici. Et quand la Bible dit impossible, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Là, on parle de choses divines. Et quand on lit le contexte, c'est très clair que c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui est tombé, mais qui avait certaines conditions dans sa vie, où là, il y a une loi spirituelle qui s'applique à lui,
et
il est impossible qu'il revienne à la repentance, et qu'à nouveau, il puisse être vivant spirituellement. Apparemment, cette personne va remourir spirituellement. Donc, ce texte-là, de Hébreux 6, 4 à 6, c'est clair que c'est un texte qui concerne la perte du salut, non pas la perte de la récompense. Alors maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on va revenir au verset 4, merci, nous donne un certain nombre de critères. Il ne dit pas, il est impossible aux bébés spirituels qui ont péché, eh bien, d'être à nouveau, de pouvoir se repentir à nouveau et d'être éclairé. Il ne dit pas ça. Mais il donne un certain nombre de critères. Des critères divins de croissance et de maturité spirituelle. En gros, ce que nous allons voir ici, c'est que c'est quelqu'un qui clairement a été loin spirituellement avec Dieu, mais qui a fait demi-tour et au bout d'un moment arrive au reniement. Parce que rappelez-vous que pour être effacé, il faut renier. La première condition, c'est qu'il est dit qu'ils ont été une fois éclairés. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ça, c'est l'équivalent de la nouvelle naissance. Donc des gens qui sont vraiment, vraiment quoi? Ils sont vraiment nés de nouveau. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas sauvé ne risque pas de perdre son salut. Cette personne n'est pas sauvée, donc tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas. Donc être éclairé, c'est vraiment l'équivalent de la nouvelle naissance. Avoir trouvé la lumière de
Christ.
Ensuite, le don céleste, c'est clairement pour moi le baptême de l'Esprit. Donc des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont déjà fait cette expérience. Déjà, on éliminerait pas mal de gens dans les églises de Bujumbura, parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas remplis du Saint-Esprit et qui ne prient même pas en langue. Dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'églises.
Pourtant,
ça fait partie du B de la vie chrétienne. Si tu veux vraiment avancer avec le Seigneur, il faut que tu fasses cette expérience. Ça t'appartient. C'est vraiment être au début de l'expérimentation des choses de l'Esprit. Être baptisé de l'Esprit, vous savez, c'est vraiment un des miracles les plus simples à recevoir. C'est vraiment faire les premières expériences de l'onction de Dieu. Ensuite, participant à l'Esprit Saint. Participant à l'Esprit Saint. Donc ça, c'est déjà des gens qui ont connu une onction personnelle, qui ont vraiment vécu des choses personnelles dans la présence de Dieu. Avoir part, c'est-à-dire vraiment tu as été touché par l'onction dans ta vie. En fait, tu sais vraiment ce que c'est que la présence de Dieu d'une façon profonde. Tu n'es pas quelqu'un qui simplement a vécu des petites choses dans la présence de Dieu, mais déjà qui a vécu des choses vraiment importantes dans l'onction de Dieu au niveau de la personnelle. Au verset 5, il est dit qu'ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. Goûter à la bonne parole de Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens qui vraiment ont utilisé et savent utiliser la parole de Dieu. Des gens qui connaissent la puissance de la vérité de la parole et de la proclamation de la parole. Donc des gens qui savent se servir de la parole, qui connaissent son autorité dans le monde spirituel. Il n'est pas parlé de connaître simplement la parole, il est parlé d'avoir goûté la parole. Donc c'est beaucoup plus profond. Ensuite, il est dit goûter aux puissances à venir. Et là, c'est clair que Dieu, c'est les gens que Dieu a utilisés puissamment. Les puissances du siècle à venir. Quand tu as opéré des choses de la part de Dieu qui sont puissantes.
ibintu bikomeye.
Tu as prié pour des gens et tu as vu les choses les plus extraordinaires.
Ugasengera abantu ukabona ibitangaza bikoreka ibintu bikomeye.
Donc évidemment tout ça ça demande une maturité spirituelle.
Urumva ko ibi byose bisaba ko umuntu
abakuze mu buryo bw'imana. Il y a pas mal de critères de maturité.
Ariko hari ibintu byinshi bivugwa byo gukura mu buryo bw'imana.
Et la grande majorité des chrétiens ne remplissent pas ces critères ici d'Hébreux chapitre
6.
Il n'y en a que très peu qui pourraient rentrer dans cette catégorie en marchant avec le Seigneur. Mais c'est clair que le verset 6 nous dit que ces gens-là, avec la maturité, qui sont tombés.
Donc,
qui retournent dans le péché. Donc, qui renie d'une manière ou d'une autre Christ, de toute façon. Pourquoi ? Parce que quand tu as une profondeur de relation avec Dieu, et que tu retournes Christ, tu retournes dans le péché, eh bien, à ce moment-là, tu es quasiment obligé de renier Christ. Quand tu as goûté sa bonté, sa puissance, la profondeur de la maturité spirituelle, et que tu te permets d'aller dans le péché jusqu'au cou, tu renies Jésus d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce que ici ce texte nous dit, c'est le sens de ce texte. Ce texte est très sérieux par rapport à ça.
Mais
il montre qu'il y a à ce moment-là une impossibilité de revenir à Dieu. Pourquoi ? Parce que tu as vu vraiment la gloire de Dieu. Tu n'es pas un bébé spirituel, mais tu es un adulte spirituel. Et tu reviens dans la boue du péché délibérément en exposant à l'ignominie, à la honte, c'est-à-dire que tu fais honte au Seigneur Jésus.
Et
évidemment, je vous dis, ça c'est extrêmement rare. Ce n'est pas des gens qui sont retournés dans le péché parce qu'il y avait des grosses pressions sur eux, mais ça a été un désir personnel. Et la Bible est claire là-dessus à ce moment-là. Qu'il n'y aura pas de repentance possible. Parce que la Bible dit clairement au verset 6, il crucifie à nouveau. Ils crucifient à nouveau pour leur part le Fils de Dieu, verset 6. La deuxième partie est le déshonore ou le ou donc l'expose à l'ignominie. Alors maintenant, nous allons voir une autre partie quand nous lisons ce texte d'Apocalypse. Et au verset 5, Apocalypse 3, Jésus dit, « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, on va reprendre Matthieu 10, verset 32. Il est dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En parallèle, nous allons lire Luc 12, verset 8. Il va nous parler dans le même sens. Il est dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Ensuite, nous allons lire un texte, c'est 1 Jean 4, verset 15.
1 Jean 4, 15,
où il nous dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, donc dans son esprit, et lui en Dieu.
4, 15, oui. Vous
voyez, d'abord le mot confession veut dire quoi ? Le mot confession, c'est attester. c'est dire la même chose que quelqu'un. C'est aussi dire continuellement. Donc de manière continue.
Donc
attester. Dire la même chose que quelqu'un. Ou dire continuellement la même chose, répéter la même chose. Il faut que vous compreniez que vous êtes connu dans le monde spirituel. Il faut que vous compreniez cela. Vous êtes connu devant le monde spirituel. Et je vais vous montrer que vous êtes connu devant trois catégories, entre guillemets, de personnes, entre guillemets. D'abord, clairement, Jésus nous dit qu'à partir du moment où on le confesse ici, Jésus nous confesse où ? Devant son Père. Le Père est où ? Au troisième ciel. Jésus, à partir du moment où tu as accepté, tu l'as accepté comme sauveur personnel, il t'a confessé et continue de confesser ton nom. Comme quoi tu es sa propriété. Devant le Père. Devant le Père. Tu es connu de ton Père céleste. Tu n'es peut-être pas très connu dans ce monde. Tu n'es peut-être pas très connu dans ce monde. Mais tu es connu dans le ciel. Tu es connu dans le ciel, mon frère. Le Père te connaît. Il te connaît par ton nom. Vous savez, c'est important de méditer sur ces vérités.
Parce que
parfois, on lit des versets comme ça. Oui, Jésus dit, si quelqu'un me confesse devant les hommes, je le confesserai devant le Père. Mais ça a des conséquences énormes. Mais souvent, vous voyez, on va lire un verset comme ça sans faire attention. Non seulement Jésus te confesse devant le Père, mais aussi devant ses anges. Et rappelez-vous qu'il y a des anges où ? Au troisième ciel, on étudiera le troisième ciel, on étudiera ce qu'il y a autour du trône de Dieu, etc. Parce que l'Apocalypse nous donne beaucoup de révélations là-dessus. Mais aussi, il y a des anges au deuxième ciel et au premier ciel. C'est-à-dire autour de cette terre. Les anges te connaissent. Les anges savent qui tu es. Toi, tu ne les vois pas avec tes yeux. Mais eux te voient. Et ils savent que ton nom est confessé devant le Père. Et la Bible nous dit clairement que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Nous étudierons les anges. Mais tu es confessé devant les anges. Les anges sont ces esprits qui interviennent avec des mandats divins sur cette terre en faveur de toi et de moi. Tu es connu. Vous savez, il faut que vous compreniez que vous êtes connu dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela et qui se retrouvent dans des situations où ils ne connaissent pas leur position. Quand tu comprends qui tu es dans le monde spirituel, alors tu peux commencer à réellement marcher dans le surnaturel. Jésus dit clairement, devant mon Père je les confesserai et devant ses anges. Devant mon Père et devant ses anges, c'est marqué dans les évangiles, c'est marqué dans l'Apocalypse. Jésus te confesse. Regardez maintenant acte 19. Acte
19.
Il faut que vous compreniez qui vous êtes. Quand les chrétiens ne comprennent pas qui ils sont, ce sont des chrétiens qui vivent dans la défaite. Tout est en train de les vaincre. Alors qu'il devrait dominer. Dieu t'appelle à dominer, mais il faut que tu saches comment dominer. Dans acte 19, il y a Un exemple de mauvais esprits qui s'expriment et qui clairement savent qui est qui. Regardez bien au verset 13. Il est dit, quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Sous-entendu parce qu'ils avaient vu Paul faire ça et délivrer les gens. En disant, je vous adjure, c'est-à-dire je vous commande par Jésus, celui que Paul prêche, donc de sortir, entre guillemets. Ceux qui agissaient ainsi étaient sept fils d'un certain Séba, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, regardez bien, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ?
Ngo ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenda impwemu zihumanye zigerera kuvugira izina ry'umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye ziti tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga kandi hari habahungu ndwi b'umuyuda yitwa Sikewa umwe mu baherezi bakuru bagenza batyo impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi ariko mweho muri bande
voyez ici le monde spirituel
aha isi impwemu
vous connaissez.
Il a cause.
Le monde spirituel, Dieu,
Imana,
les anges,
mais
aussi les mauvais esprits, savent qui habite en vous. Réfléchis à ça. Le monde spirituel te connaît.
Il a cause.
Dieu
Imana.
Te connaît par ton nom.
Il a causé m'izina.
Jésus t'a confessé devant le Père et te confesse devant le Père.
Yesu yarakwatuye imbere ya data kandi arakwatura imbere ya
Jésus t'a confessé et te confesse devant les anges.
Yesu yarakwatuye kandi yamakwatura imbere y'abamarayika.
Et les mauvais esprits
impwemumbi
savent qui tu es.
Zirazi zamazumvise uriwe.
C'est pourquoi quand tu te retrouves devant des manifestations sataniques,
nico gituma iyo uhuye n'ibintu bigaragara by'impwemumbi,
fais simplement comme ça.
Wowe urifata uko gusa.
Et dis, tu sais très bien qui je suis.
Et
tu es ce que tu es grâce à Christ, pas à cause de toi, pas grâce à toi. Mais tu as une position spirituelle. Les gens ont du mal à comprendre le fait que Jésus nous confesse devant son Père et devant les anges, que ça nous donne une position d'autorité sur cette terre. Et quand des esprits sataniques se manifestent, par exemple dans quelqu'un pour qui tu pries, ou même quelqu'un qui veut te nuire, tu
leur
dis, mais vous croyez que vous êtes qui? Vous croyez que vous allez pouvoir me toucher? Mais c'est votre autorité, frères et sœurs. Parce que dans le monde spirituel, vous êtes connus. Il faut que vous le réalisiez. C'est très important. Regardez ce que ce mauvais esprit a fait après, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, c'est-à-dire celui qui était possédé par l'esprit, s'élança sur eux et se rendit maître de tous les deux, parce que ces gens-là ont une force surnaturelle. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas le monde spirituel, c'est-à-dire vous ne montrez pas que vous êtes dans l'autorité spirituelle, les esprits sataniques en profitent.
Burya iyo uterekanye utagende mu nkomezi wahawe mu isi y'impwemu usanga impwemu mbi nazo ziboneraho kugira nabi.
Ici, l'esprit satanique a utilisé le corps de cet homme.
Uyu aha rero impwemu mbi yakoresheje umubiri w'uyu
muntu. Pour se rendre maître de deux personnes, de les maltraiter en sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
Ngo umuntu ari mu impwemu ihumanye arabagurukira ko bompi arabanesha arababirika.
Ces gens-là cherchaient à chasser des démons par Jésus, ou par le nom de Jésus. Le problème, c'est qu'ils appartenaient au monde spirituel satanique eux-mêmes. Toi, tu appartiens au royaume de Dieu. Et il faut que tu saches que du troisième ciel jusqu'au plus profond de l'enfer, on sait qui tu es. On sait qui tu es. Et tu as plutôt intérêt à savoir qui tu es. Parce que c'est ce qui te permettra dans des moments difficiles de ta vie où tu sentiras des choses qui ne sont pas claires. Ou aussi parce que tu vas délivrer des démoniaques. Tu ne passeras pas le temps que ces gens, soi-disant, passent pendant des semaines et des mois pour délivrer les gens. Parce que d'une part, tu sais qui tu es. Et d'autre part, tu sais que ces démons-là savent qui tu es.
Ku rundi ruhande naho urazi ko ayo madaimoni azi ko.
Et donc, ils ne peuvent pas rester
azuriwe
dans la personne alors que tu leur donnes un ordre par ta bouche, par ta foi et par le fait que Jésus te confesse au troisième ciel et qu'il te confesse devant les anges. Et c'est là où ces esprits sataniques ne peuvent pas venir te toucher. Et encore en plus, ils sont obligés de t'obéir. Et ça, tu dois le savoir. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que vous êtes connus, que vous... Il y a quelqu'un qui vous confesse. C'est Jésus qui vous confesse devant son Père. Et c'est important de s'en souvenir régulièrement, frères et sœurs. Quand tu comprends cela, alors tu es fort. Et quand l'ennemi vient, tu ne te laisses pas impressionner. Eux, vous voyez, ces gens-là appartenaient, là, les fils de Séva, là, ces sorciers-là, appartenaient au monde satanique. Quand l'esprit mauvais a utilisé cette personne qui était possédée, c'est eux qui ont fui. Ils étaient obligés de fuir. Pourquoi? Parce que l'esprit mauvais les frappait au travers du corps de cet homme. Et ils ont été obligés, eux, de fuir. Mais toi, qui est confessé devant le Père, qui est confessé devant les anges, toi dont les esprits sataniques savent exactement qui habite dans ton esprit, tu ne dois jamais reculer contre l'adversité, mais tu dois marcher en tant que vainqueur et ne jamais te laisser impressionner. Tu as la maîtrise des situations si tu as foi dans le nom de Jésus. C'est là où tu verras sa puissance se manifester. Si par contre tu te laisses impressionner, alors là, crois-moi, ça me fait penser à Yonggi Cho un jour. Il raconte ça dans un de ses livres. Et il y avait une dame dans son bureau qui cherchait des conseils spirituels. Et en fait, Yonggi
Cho,
il était là devant cette dame. Et puis il voyait que cette dame avait des problèmes sataniques. Elle était possédée d'un esprit mauvais. Et il a commencé donc à prier. C'était dans son bureau. Et alors il était là en train de dire aux esprits, « Oh, partez, oh, je vous demande vraiment de partir, s'il vous plaît, laissez cette petite dame tranquille. Laissez-la, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, je vous demande vraiment de le faire. » Laissez-la. Et il était là en train de dire, de parler à ses esprits comme ça. Et Yonggi Cho dit que ses esprits ont rigolé. Ils se sont moqués de lui. C'est une histoire vraie. Et c'est là où Dieu lui a révélé son autorité. Et d'un seul coup, il a saisi son autorité. Et là, il a changé. Il n'était plus là en train de dire, « Oh, s'il vous plaît, sortez d'elle, sortez d'elle. » Et là, il a dit, « Au nom de Jésus, maintenant ça suffit, vous êtes liés, chassez de cette femme. » Et quand il a prononcé cette parole, en prenant son autorité, en sachant qui il était, instantanément la femme a été délivrée. Vous ne devez pas vous laisser impressionner. Jamais. La foi, quelqu'un qui marche dans la foi, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a une vision et qui a des objectifs qui sont divins. Qui sait qu'il ne peut pas réaliser ses objectifs par lui-même? Vous savez, on ne peut pas chasser un démon par notre propre puissance. On a juste à utiliser le nom de Jésus et à lier l'esprit mauvais et à le chasser. Et il doit partir. Il
n'y
a pas besoin de revenir dessus. Un jour, Kenneth Hagin, comme ça, a prié pour une femme qui était folle.
Umusumwe Kenneth Hagin yasengeye umugore ya Sara.
Et comme cet homme-là savait qui il était.
Ariko kubera ko umukozi w'Imana Kenneth Hagin yarazi uwo ari we.
Oh, c'était sa mère, c'était une fille en fait, et sa mère a appelé Kenneth Hagin pour qu'il vienne prier pour sa fille.
Yari umukobwa mama wiwe yahamagaye Kenneth Hagin ngo aze kumusengera.
Et il a simplement ordonné à l'esprit de partir.
Hamaraza ategekiye
umwe. Il a lié ses esprits de folie. Il a ordonné de partir. Et quand il a donné cet ordre, apparemment rien ne s'est passé. Il a dit au revoir à la dame. Et la fille était toujours dans le même état. Toujours aussi folle. Elle était prostrée comme ça. Et il est rentré chez lui tranquillement.
Et
évidemment, des pensées sont venues l'assaillir. Est-ce que cette femme a été délivrée? Cette fille a été délivrée? Et puis elle avait quelqu'un qui lui a dit, tu sais, elle est toujours dans le même état.
Et
il a dit non. J'ai ordonné à ces esprits sataniques de partir. Et je sais qu'ils sont partis. Et quelques jours après, la fille était entièrement libérée. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez que le monde spirituel vous connaît, ce n'est pas un problème de faire bouger le monde spirituel. Si le monde spirituel ne bouge pas en ta faveur, c'est que tu n'as pas compris qui tu étais. Tu es encore dans un stade où tu es en train de te bagarrer parce que tu n'as pas cette révélation. Jésus te confesse devant son Père. Jésus te confesse devant ses anges. Et les esprits sataniques savent très bien qui habite en toi. Donc il va falloir que tu te confortes avec ça. Afin de ne pas te laisser faire marcher sur les pieds par ces esprits sataniques qui utilisent les hommes parfois pour te faire tout un tas de mal.
Ou quand
tu pries pour quelqu'un et que tu sais par révélation qu'il y a un démon, c'est très simple. Ne te laisse pas impressionner par des grosses voix, des trucs bizarres. Tu dis, ça suffit maintenant. C'est terminé tout ça. Pendant Jésus, tu sors et tu laisses tranquille. Et tu vas voir ta parole agir. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Quand tu parles la parole de Dieu, sache une chose, elle a un impact sur ta bouche. Parce que justement, tu sais qui tu es. Et que ce n'est pas ta parole. C'est sa parole que tu confesses. Et lui, il te confesse devant le Père. Il te confesse devant les anges. Et quand tu fais ça avec foi, le monde spirituel bouge en ta faveur. Le monde divin est en train d'agir et de transformer tes situations. Mais il faut que tu apprennes à faire ça. Et il faut que tu grandisses dans cela. Parce que si tu ne le fais pas et que tu ne grandis pas dans cela, tu vas rester bébé spirituel et les circonstances vont te battre de plus en plus. Et quand l'ennemi sera derrière quelqu'un, tu ne pourras pas avoir la victoire divine. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes ces choses. Parce que tu es connu par le Père. Tu es connu par ses anges. Ils veulent agir en ta faveur. Mais il faut que tu saches faire marcher la foi. Faire marcher la foi. De parler cette parole. De parler comme il parle. De parler comme la parole de Dieu donc parle. Et là tu vas voir les effets les plus exceptionnels se produire. Parce que si tu l'as confessé sur cette terre, il te confesse là-haut. Et il te confesse devant ses anges. Et tu ne peux pas être détruit. Personne ne peut toucher à ta vie. Parce que tu as l'autorité. Et ce monde spirituel, invisible, qu'il soit divin ou satanique, il sait qui tu es et qui te confesse. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.